épique, époque, salon du livre, place Saint-Sauveur, 26 mai 2018, je crois.
Voilà, et encore une heure passée sans pluie. C'est presque l'incompréhension qui se lit sur les visages normands qui ont rarement vu ça.
Que font d'humains. Les nuages ? La que population nuages se le demande, voilà, sur le pavé brûlant de la place Saint-Sauveur.
Alors qu'un spectateur téméraire, sans doute habitué de Roland-Garros, a décidé de s'asseoir en plein milieu du cagnard. Mais bienvenue monsieur, bienvenue. Installez-vous, vous êtes le bienvenu. Voilà. Un bout d'ombre.
Ah oui, la température voilà va monter pour cette apostiche numéro 3452, puisque nous ouvrons la page sociale, les pavés.
Alors, bienvenue donc dans ce 355e numéro d'apostiche.
Apostiche.
On peut y aller, c'est décembre. Merci, monsieur.
Avec cette
merci
petite
beaucoup
intro de Chili Gonzalez au piano, typique de cette apostiche. Alors oui, la température se réchauffe sur le pavé canet puisque nous ouvrons cette page sociale en compagnie d'Hervé Lecronier de CF Édition. Bonjour et bienvenue.
Bienvenue, merci beaucoup de nous inviter.
Eh bien, on va partager un moment avec littéraire toi autour de l'activité de ta maison d'édition. Tu peux nous la présenter un petit peu, CF Édition, c'est plutôt canet.
Oui, on est à Caen, mais en fait, on traite de questions internationales, donc c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, avec Internet, on s'aperçoit que l'international et le local, c'est un continuum. Il n'y a pas de rupture fondamentale entre des questions qui se posent dans une ville, celle du climat, celle de l'Internet, et des questions qui se poseraient à l'échelle du monde. Donc c'est ça qui nous semble assez intéressant. Ça nous permet donc, à partir de Caen, de traiter des questions globales sur que devient la société avec le numérique.
Et CF Édition, c'est autour, donc il y a des chercheurs, il y a des votre angle d'attaque d'analyse ou de critique sociale, c'est plutôt sur quel
D'abord, je voudrais dire une chose. On est content parce que la semaine dernière, nous avons fêté les 15 ans de CF Édition. Ça fait 15 ans à une semaine près que nous avons signé les statuts de notre maison d'édition.
Eh bien, joyeux anniversaire.
Question merci très très bête, CF, pourquoi
CF? Ah,
Cigale et Fourmis. Catherine et Françoise, pardon.
Voilà. Cigale et Fourmis, c'est-à-dire il y a des choses qui nous permettent de vivre et d'autres qui font des grosses dépenses avec des trous dans la caisse.
Qui sont les cigales? Qui sont les fourmis?
Tu sais bien où sont les cigales.
Comprends
oui
qui veut. Ah bon? Où ça? Je les entends pas ici sur le pavé, j'entends la rumeur qui gronde et qui monte surtout, non?
Elle arrive de la marée, c'est ça?
Elle arrive, la marée monte, camarade. Et donc vous avez monté cette maison d'édition, dans quel objectif
en fait, c'était d'avoir enfin un regard critique au sens sociologique. C'est-à-dire des fois on dit du mal, mais des fois on dit du bien. C'est pas ça la question, c'est juste prendre du recul. Hein. Regard critique, c'est prendre du recul. Ça, c'est toutes les traditions de réflexion, en fait, sur les sujets. Et on voulait avoir un regard critique sur les sociétés de l'information, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, on dit plus globalement le numérique ou la culture numérique. Donc, on a publié des livres qui viennent souvent de chercheurs, mais qui sont réécrits pour essayer d'être accessible à un grand public, ou au moins un public averti, quoi, des gens qui ont envie de se poser des questions.
Et alors, comment réécrire des livres très techniques, alors en sociologie, en économie, en linguistique, numérique, et le rendre accessible? Comment vous faites?
J'espère qu'on réussit déjà. Il n'y a pas de recette miracle, mais ça demande un certain travail de... Un chercheur s'adresse en fait à ses pairs. Ce qui va le faire évaluer, c'est ce que vont dire ses collègues. Un livre s'adresse à des lecteurs pour qui l'auteur est l'autorité. Auteur, autorité, en fait, c'est le même terme. Alors qu'en recherche, l'autorité, c'est les collègues, c'est pas soi. Donc on passe son temps à essayer de prendre des précautions, de citer des gens, de faire des remarques qui disent « Attendez, j'essaye juste d'avancer, de pousser ma pierre, etc. » Alors que dans un livre, il faut au contraire montrer clairement qu'on a participé à la recherche, qu'on sait de quoi on cause, mais qu'en fait, on donne les résultats de sa recherche, les résultats de ses travaux.
Et vous avez débuté les premiers ouvrages par quelle proposition ?
On a travaillé pas mal nos premiers ouvrages, portés surtout sur le... On a commencé en fait par un livre sur la propriété intellectuelle et le développement. En quoi la propriété intellectuelle allait-elle favoriser, ça c'est ce que disent les possédants, ou défavoriser, c'était plutôt nos points de vue, le développement des pays que l'on dit en voie de développement. Donc c'était en 2005 ça... Et ce livre-là a été un des premiers en France à introduire la notion de commun, c'est-à-dire de choses qui ne sont pas de l'ordre de la propriété, ni de la propriété intellectuelle, ni de la propriété foncière, mais qui sont destinées à être partagées. Et donc on a tout un fil de publications sur cette question des communs. Comment est-ce qu'on peut avoir de nouvelles lunettes, imaginer le monde autrement à partir d'une critique radicale de la propriété en faisant passer en fait le droit d'usage avant le droit de propriété.
C'est pas un peu anarchiste tout ça ?
Oh écoutez, c'est anarcho-communiste les communs. oui, il y a toute une série de traditions. Hein. Non, je l'entends bien comme ça. Il y a toute une série de traditions qui viennent du 19e et 20e siècle qui se rapportent à la question des communs. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui nous parlent des biens communs, du bien commun, à commencer par monsieur notre président. Je n'ai pas tout à fait la même interprétation de ce qui nous est commun.
Il n'a pas la même notion du commun que nous.
Et voilà, je pense qu'il a, il a une, ce qu'on appelle chez nous le commons washing. C'est-à-dire, je fais du blanchiment de ce qui serait les communs, mais qui dépossède en réalité du caractère subversif que ça a de se projeter dans un monde où le partage serait la valeur dominante. C'est se projeter dans un monde où le partage est la valeur dominante, alors même que dans notre monde actuel, c'est l'hyper-concurrence, c'est même plus la concurrence. Parfois, c'est sain, la concurrence. Mmh. Compétition sportive, même la concurrence économique, c'est sain. Ça
même entre animateurs radio, parfois, et on se tient la boue. Voilà, hein, c'est un monde assez cruel.
C'est nécessaire.
Hein. Hein. Parfois, un bon Fushimu, c'est réglé. Mais
l'hyper-concurrence... écoutez, un de nos auteurs, Olivier Hirscheid, qui a publié chez nous un livre qui s'appelle « L'appétit des géants », « Le pouvoir des plateformes », et pouvoir des algorithmes et ambition des plateformes. Ça, c'était avant toutes les affaires de Facebook. Et il a publié ça l'année dernière. Mais en fait, tout ce qui se dit sur Facebook est là. Et Olivier, donc, hier, sur son blog, a publié un papier à propos de Parcoursup, où il explique qu'en réalité, Parcoursup, c'est là pour apprendre quelque chose. C'est vraiment pédagogique. Mais ça apprend l'humiliation. Ça apprend... l'hyper-concurrence, ça apprend le fait que si tes parents t'ont bien aidé à rédiger ta lettre de motivation, t'as plus de chances que si tes parents n'ont pas les moyens de bien t'aider. Et ça nous apprend en fait le monde dans lequel ils vont vraiment être plongés, c'est un monde dans lequel il n'y a plus de solidarité.
Un apprentissage de la concurrence.
C'est un apprentissage difficile. Je crois qu'il y a la moitié des lycéens qui ne savent pas où ils vont aller en fac. Ah, c'est dur la vie moderne. Hein.
Et comment tu reçois ce genre d'événement, comme cette rencontre, cette réception de tout avec par notre bien-aimé roi et président en même temps des gens d'une bande du GAFA qui se pointent qui reçoit avec tapis rouge. Comment tu vois les choses?
Ah, j'ai beaucoup aimé.
Ça t'évoque quoi?
Quand j'ai lu l'article, je me suis pas retenu de tweeter immédiatement que inviter le fasciste Peter Thiel qui dirige Palantir, la société qui organise l'espionnage pour la CIA, inviter cette personne-là à l'Élysée pour dire qu'on va travailler le bien commun, Ça, je crois qu'il faut faire du en même temps et en même temps et en même temps
c'est
encore.
C'est bien que tu l'aies dit tranquillement, Hervé. C'est bien, je pense que tout le monde a bien entendu, en tout cas celles qui nous écoutent à la radio et sont ici, parce que non, mais c'est vrai que blague à part, on ne dit pas clairement ce genre de choses. Après, voilà.
J'ai toujours dit clairement.
Non, mais je parle pas de toi.
Il y avait un clin d'œil à Papon également dans la résistance, dans la communication que tu m'évoquais hier, Ben, de JB Polémix. Il a montré une affiche.
Que Macron, une affiche de En Marche est exactement mise en parallèle qu'une affiche du régime de Pétain, hein, qui était exactement En Marche, la même chose. Hein. Voilà, même iconographie. Bon.
Donc on s'en cache plus. Enfin, il ne s'en cache plus. Et donc ce fasciste dont tu parles, c'est un fasciste avéré.
Ah ben c'est le soutien numéro un de Trump, seul soutien parmi l'ensemble des gens de la Silicon Valley à soutenir Donald Trump.
Donc notre cher président l'invite pour faire des affaires et pour travailler le bien commun, donc leur bien commun, et nous déposséder.
C'est pas le nôtre.
Voilà.
Et en plus l'Europe est toujours vue, enfin en tout cas la France y compris, comme un peu les ringards d'Internet, enfin ceux qui sont à la bourre, y a les réseaux c'est foireux, les gens n'ont pas assez d'ordinateurs, etc. Enfin on a toujours vu un petit peu comme...
Mais non, la France est en avance. Moi je reviens des États-Unis, leur réseau là-bas, faut éviter quoi. Faut éviter, chez nous ça avance à une vitesse normale, chez eux c'est d'une lambinerie pas possible. Puisqu'il y a une concurrence en fait qui est telle qu'elle ne permet pas le déploiement de services de grande hauteur. Donc ils ont d'un côté les entreprises, les grandes entreprises, Google, Microsoft, Amazon, etc. Et de l'autre côté, ils ont des réseaux eux-mêmes, des capacités d'accès qui sont bien moins bonnes qu'en France. Faut pas, dès qu'on vous parle de retard, non, on est dans un monde mondialisé. Je veux dire, à la limite, les plus en avance aujourd'hui, c'est les Chinois, parce qu'ils sont passés directement à un Internet sur le téléphone mobile.
Et puis le soleil se lève chez eux, donc ils sont levés plus tôt que nous. Donc,
attention, voilà, les Chinois. Attention les Chinois.
C'est au moins
Chinois.
Quelques attention. Heures d'avance.
Attention. Et il y en a partout.
Donc vous êtes sur CEF Édition, Cigale et Fourmi Édition, beaucoup sur la connexion, la communication. Là, le dernier ouvrage s'intitule Neurocapitalisme.
Ouais, Neurocapitalisme, c'est fait par Giorgio Grigiotti, qui est un Italien. C'est une traduction de l'italien. Giorgio a été un des premiers à avoir un diplôme d'informatique en 1970 au Politecnico de Milan. Et donc, il est rentré comme travailleur de l'informatique. Il a commencé par être programmeur, puis chef de projet. Et il a suivi, en fait, toute la manière dont l'informatique a modifié profondément la relation à l'intérieur de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. C'est comment les gens de l'informatique se sont emparés des méthodes de l'entreprise. Puis, deuxième vague, la vague de l'Internet, la vague du téléphone mobile. Dans la deuxième vague, ce sont les individus qui se retrouvent avec leur téléphone mobile et qui deviennent, comme l'explique Giorgio Grigiotti, on passe de l'ère des appartenances, où on appartenait à son entreprise, à son parti, où on pouvait appartenir à sa ville, à tout ça, à l'ère des traversées. C'est-à-dire où, en fait, les gens sont dotés d'appareils, mais ils sont en même temps dans une grande solitude pour négocier avec l'ensemble des puissances qui détiennent les réseaux informatiques, qui détiennent les modèles de travail informatique, qui détiennent, en fait, qui captent de la richesse sur des gens qui sont de plus en plus dépossédés, alors que, dans le même temps, ce sont des gens qui sont de plus en plus dotés d'appareils autonomes, qui sont de plus en plus... suivi des études, etc., etc. Donc on a une nouvelle contradiction, et tout ce livre Neurocapitalisme et vise à essayer de montrer quel est le nouveau basculement. Il se situe dans la lignée de Foucault, dans la lignée de Tony Negri, des opéraïstes italiens, parce que Giorgio Grigiotti a participé au long mai 68 italien, qui a duré grosso modo de 68 à 78, donc c'est assez long.
C'est long, comme
ça. Voilà. Et il a été en exil ensuite, puisque, rappelez-vous, c'était aussi les années de plomb en Italie. Et donc, ça lui permet aussi d'avoir une vision mondiale. Enfin, bon, je pense que c'est un livre que je suis très content d'avoir édité et traduit, parce qu'il donne, un véritable regard à la fois construit de l'intérieur par quelqu'un qui a participé à cette introduction de l'informatique et construite de l'extérieur par une critique radicale du capitalisme cognitif.
Et justement, pour quelqu'un qui a construit des outils, mis à disposition cet outil informatique, à disposition des individus et des groupes, dans le but, lui, éthiquement, plutôt de rendre autonome l'individu, est-ce qu'il est plutôt réfractaire? Est-ce qu'il regrette certaines... avancées, est-ce que c'est du oui mais qu'est-ce qu'il y a des
regretter,
techniques qui sont...
Regretter, quand on parle de l'informatique, ne peut jamais être un bon terme. Moi-même, je ne regrette pas d'avoir créé à Caen, en 98, la première formation sur Internet en France. Même si aujourd'hui, Internet a été dévoyé, c'est-à-dire ce que nous, on appelle dans un de nos livres aux sources de l'utopie numérique. Bon, cette utopie numérique était un message de liberté, d'égalité, d'échange, de partage, est devenue aujourd'hui renversée par le pouvoir de quelques grandes entreprises qui nous disent ce qu'on doit faire et qui nous incitent à faire des choses en captant nos traces. Bon, ce basculement-là, moi, je ne regrette pas du tout d'avoir appris à des gens à créer des blogs, à créer des sites et à être capable de s'exprimer. Giorgio, de la même manière, dit... J'ai fait des choses parce que c'était aussi la logique et comme voilà.
Et aujourd'hui, est-ce que ces outils, est-ce qu'on a les moyens avec tous les logiciels libres et les outils qui peuvent être mis à notre disposition pour se passer des services très intéressés de ces grands groupes, quels sont les outils ou les moyens qu'on doit se donner pour se libérer de ça?
Alors là, il faut utiliser des logiciels libres, des services libres comme Framasoft. En France, c'est vraiment Framasoft qui a lancé une campagne qui s'appelle « Dégooglisons l'Internet ». Et OK, c'est des services en qui on peut avoir confiance, c'est-à-dire ils ne captent pas de données, ils ne cherchent pas. Pour les moteurs de recherche, vous avez Quant, qui l'a aussi développé en France par le responsable technique est un ancien prof d'informatique de l'université de Caen. Je te dis que Caen est au centre du monde. Hein, c'est
ouais,
juste
on
ça.
Aujourd'hui, depuis quelques hein. instants, on se rend compte.
D'ailleurs, je pense que ta parole est entendue car le vent se lève.
Le vent se lève.
Le vent se lève, le pavé chauffe et
en plus, non seulement la marée monte, le vent se lève, et en plus, un autre membre vient de se greffer. Éminent vient de se greffer sur le plateau d'Apostiche. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu veux qu'on te laisse souffler un petit peu, Nicolas Beignez? Bonjour.
Bonjour. J'espère que vous allez tous bien.
Hein? Ah bah écoute, nous aussi.
Jusqu'ici, ça va.
Oui, c'est ça. Sur mais bien arrivé, alors.
Voilà.
On ne sait pas comment ça va poursuivre.
Toi, tu viens directement de la manif, là.
Absolument.
Tu vas nous en faire un bref récit ou nous donner quelques informations et puis rejoindre la discussion, évidemment, à tout moment quand tu te sens. Mais je pense que c'est pas le sujet qui manque pour accrocher les wagons.
Il faut. Moi, pour l'informatique, je suis un grand spécialiste. Hein, donc, Hervé peut témoigner. Dès qu'on met une machine entre les mains, elle ne marche plus.
Mais donc, voilà. Il faut absolument que tu fasses un tour chez Google, toi.
Tu es testeur, donc.
Donc, on en était à citer toute une... J'espère que tout le monde a noté comment se passer de Google, hein, parce que c'est faisable. Donc, tu peux rappeler, s'il te plaît, Hervé, parce que, tu sais, à part Edouard Potter, lui, il jubile. Là, parce que je peux te dire qu'il y en a un qui est en train d'atteindre l'orgasme informatique à l'intérieur de la caravane. C'est Edouard, parce que tout ce que tu viens de dire,
tous
ça lui cause
un
fond.
Mais en ce moment, il y a une opération sur les GAFAM, justement.
Voilà, attends, excuse-moi. Oui. Poc, est-ce que, Hervé, tu peux redire comment, pour une utilisation de base, on va dire, hein, comment se débarrasser de Google et Microsoft?
Je voudrais pas faire de la publicité, même si je suis là pour
ça.
Il
va bien falloir, parce que sinon on va y arriver.
Mais, on a publié un livre qui s'appelle « Surveillance 2.//». Tu sais, c'est le nouveau protocole de l'Internet, le protocole de la surveillance. Et en fait, le livre fait par Tristan Nitto. Et Tristan Nitto, c'est celui qui a été la personne clé de la renaissance de Firefox. Firefox était mené par des développeurs, et à un moment donné, il fallait quelqu'un qui parle. Donc il a créé Mozilla Europe et il a développé donc à nouveau Firefox qui jusqu'à un moment donné a failli être le navigateur numéro 1, qui est un navigateur libre, c'est-à-dire tout le monde peut savoir, des informaticiens peuvent aller voir, en conséquence ils pourraient dénoncer s'il y avait des mauvaises pratiques.
D'accord.
Donc dans son livre Surveillance, Tristan Nitto explique dans toute la deuxième partie comment choisir des sites, des systèmes, des outils qui nous permettent je ne dirais pas de quitter complètement le monde des monopoles, parce qu'on ne peut pas quitter un monopole. C'est ça le problème. C'est quand vous voulez un média social, il y a un très beau proverbe anglais qui dit « Go fishing where the fishes are ». Il faut aller pêcher là où il y a des poissons. Si vous voulez un réseau social un peu conséquent, vous allez sur Facebook. Donc la question n'est pas tellement quitter ou pas quitter Facebook, c'est quelle va être la régulation qu'on va pouvoir imposer à ces grands acteurs-là. On vient quand même de vivre un moment important hier. Hein. Hier à Paris, il y avait la fête des libertés numériques, à Paris dans plusieurs villes, parce que c'est le règlement général sur la protection des données qui est mis en œuvre à partir du 25 mai. Et dans ce règlement, il y a pas mal de choses qui peuvent protéger les individus. Et on voit bien que c'est uniquement par la négociation, par la loi, par la réflexion collective, et pas par des actions uniquement individuelles. L'action uniquement individuelle, elle est bien. Il faut développer au maximum les logiciels libres, au maximum les services libres, au maximum les services qui ne font pas de traces. Il faut inciter les gens à ne pas tracer, etc. Donc c'est toute une série de choses utiles à l'échelle individuelle, mais ça ne suffira pas pour briser des monopoles aussi immenses que Google, Amazon, Tencent, Baidu, etc. Il faudra des décisions collectives, des lois, des choses comme ça. Juste un mot. La CNIL aujourd'hui peut imposer à Google 4% de son chiffre d'affaires mondial.
C'est-à-dire mondial. Concrètement, lui imposer
Si Google ne se plie pas aux règles du RGPD, si Google ne nous donne pas les moyens de quitter Google, ne donne pas les moyens d'effacer nos données, etc., alors Google peut être passible d'une amende allant jusqu'à 4% de son budget mondial.
Mais la CNIL agit en France, en Europe ?
Ah non, pour la France. Les autres ils redemandent 4% à côté, oui, bien sûr.
Voilà, et pas
non, ça sera
pas
plus compliqué que ça. Hein, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il ne peut pas y avoir uniquement des lois s'il n'y a pas une menace. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous parliez tout à l'heure de la petite réunion sympathique.
Ça ne sentait pas la menace. Hein.
La petite sauterie à l'Elysée avec les...
Oui,
Google a été gentil. Google a proposé 100 millions pour former des informaticiens. Mais Google doit 1,5 milliard au fisc. Ouais. À mon avis, avec la différence, on aurait pu former des informaticiens dans les universités. Il n'y aurait pas de problème.
Voilà, c'est dit.
Nicolas.
On prend cher, là.
On prend cher.
Hein. Je pense
ça va, vous suivez en terrasse, le soleil.
Ben, on
le
en a perdu quelques-unes et quelques-uns. Oui, la dame s'accroche au parasol. On sent que... Mais c'est bien, ça, c'est bien, madame. Vous vous accrochez à tous les sens du terme. Monsieur aussi, je vois, il est là depuis tout à l'heure. La police arrive. Parce que ce que tu viens de dire, Hervé, c'est interdit. Donc, on va faire en sorte de les tenir à distance. Mais tenez le coup. Ça vaut le coup. Il y en a qui ont craqué un peu. Ben, tant pis, qui continuent à se faire fouetter par Google. Mais les autres, c'est bien. C'est bien, on va continuer à s'accrocher. D'ailleurs, on peut continuer à parler de CF Édition, de sa partie édition, parce que tu as édité aussi un livre ou plusieurs de Nico. Trois, ouais, tu vois, trois.
Trois, enfin, il y en a plus qu'un disponible au jour d'aujourd'hui.
D'accord.
Mais il y en a un qui paraît en juillet et un qui est épuisé, donc qui va être réédité.
Alors, quels étaient ces livres ?
Vas-y, Nicolas,
à toi le micro. Est-ce que tu as reposé un petit peu ? Parce que quand tu es arrivé quand même de la manif, là, on sent que tu t'es battu contre la police quand même. Hein. Tu étais essoufflé. Hein.
Ça a été dur. Hein.
Ça a été dur. Bon.
Oui, alors oui, avec Hervé, on s'est mis d'accord pour faire un espèce de nouveau titre générique qui s'appelle Le Souffle. Et Le Souffle, en ce moment, on en a besoin parce que c'est vrai qu'on a un peu essoufflé de manière générale.
Donc, ça fait un an qu'on marche comme des fous, hein, quand même.
Voilà.
Donc il fallait reculons, c'est plus fatigant en plus.
De travers.
Sans rétro, c'est dur.
Plutôt en écrevisse, mais ouais. C'est un truc. On peut en discuter, hein, parce que c'est pas trop. Et donc voilà, on a commencé par Le Souffle bleu, et celui-là, on va le rééditer bientôt avec une nouvelle préface et tout beau, tout bien. Mais il n'y aura plus de CD. Donc, d'habitude, on mettait un CD pour illustrer le tout.
D'accord.
Là, on va supprimer le CD, mais on va mettre plus de pages.
D'accord. Bon, ça ne prendrait pas non plus tant de place que ça, le CD.
Non, mais c'est lourd.
Ouais.
Et puis, bon. Alors après, Le Souffle bleu, ça parlait en fait d'un ensemble qui était lié à l'année 1959-60. Et vous vous en souvenez pas, mais l'année 1959-60, c'est une grande année pas seulement pour le jazz, mais pour l'ensemble des disciplines artistiques, parce que c'est une véritable révolution. Le jazz, la révolution a lieu parce qu'on passe au modal. C'est particulièrement vrai pour Miles Davis et ce qui s'appelle The Kind of Blue, donc une sorte de bleu.
J'adore parce que je t'écoute religieusement, puis on est dans l'émission qui est sur Radio Bazar Noble, les rendez-vous avec les amoureux du jazz. Mais ça y est, on va entendre parler de musique de jazz.
Et Miles Davis s'invite, il n'y a pas que Donald Trump.
Mais ça, c'est ton aiguillage entre l'économie et le jazz. Ouais. Mais voilà, excuse-moi de t'avoir interrompu.
Restons en 59.
Voilà, le modal.
En 1959. Pour l'économie, ça va être une autre histoire, mais donc pour le jazz, c'est réellement une révolution assez profonde, cette révolution. Elle s'appelle donc Miles Davis, mais elle s'appelle aussi Ornette Coleman, John Coltrane. Et cet ensemble-là détermine une nouvelle, est-ce qu'on peut appeler vraiment une nouvelle vision du monde. Et on peut penser même que c'est préparatoire à mai 68.
D'accord.
Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une autre façon d'écouter, une autre façon d'entendre, une autre façon de jouer. C'est l'idée qu'on peut être libre. C'est ça l'idée du free jazz. Le free jazz, ce n'est pas simplement une espèce de cacophonie dont on entend parler maintenant avec l'idée « Oh là là, c'est du free jazz, au secours !» Non, le free jazz, c'est une attitude. Et cette attitude, c'est une attitude de liberté. C'est de se dire « Tout est permis, on peut tout essayer, on peut tout tenter. » Et tout tenter, ça signifie qu'on peut mettre en cause tout ce qui s'est fait précédemment. Mais quand on dit mettre en cause précédemment, ça ne veut pas dire qu'on fait du passé table rase. Ça signifie qu'on se sert du passé pour déterminer un avenir. Moi, j'ai une grande idée qui est que jusque-là, on écrit un roman. Très souvent, on écrit un roman politique. C'est-à-dire qu'on se sert du passé, qu'on le décompose pour le recomposer et d'expliciter ainsi le présent. Je crois qu'il faut passer au récit. Et le récit, ça signifie se servir du passé pour aller vers l'avenir. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ces années 59-60. C'est qu'on se sert du passé pour aller au-delà, pour franchir toutes les limites. Et ce franchissement des limites est quelque chose d'assez extraordinaire pour toute cette génération. Parce qu'en même temps, il y a la décolonisation, en même temps, il y a la guerre d'Algérie pour la France, en même temps, il y a les débuts de la guerre du Vietnam. Tout ça a une espèce de répercussions sur la manière de penser, sur la prise de conscience de la jeune génération. Et cette jeune génération, elle a en plus une musique commune. C'est très rare. Je crois même que c'est la première fois dans l'histoire, y compris jusqu'à aujourd'hui, qu'une jeunesse, est une musique commune. Le rock, en l'occurrence.
Tu passes un peu vite sur toute la culture techno avec les free parties, quand même, qui ont aussi trouvé cette dans les années 90.
Oui, c'est vrai, mais
avec
mais...
les Travelers, le mouvement Traveler, et au travers de l'Europe et du monde, il y a eu ce même mouvement comparable pour des musiques différentes.
Oui, je suis d'accord, mais vraiment là, parce que ça en même temps coïncidé avec une révolution démographique. On était au niveau des teens, des adolescents, et dans les années 54, ces adolescents, ils commencent à prendre une importance économique. Et c'est ça qui fait la différence quand même. Et d'un seul coup, on a devant les yeux, dans cette révolution démographique, une jeunesse qui se retrouve en elle-même. Moi, j'ai une expérience qui est celle de la place de la Nation en 1961. C'était avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Eh bien, ça n'avait pas
d'importance. Ah, c'est toi qui as cassé les chaises et les tables
Olympia.
Et tout ça.
Petit saligo.
Ah, on saura enfin la vérité.
Non, j'avais commencé avant parce que...
C'est un mec qui a fait des reprises de Michel Sardou.
Ah, d'accord.
Voilà,
je crois. Hein.
Oui, tout à fait. Et donc, il y avait... Pour reprendre, il y avait vraiment toute une jeunesse qui était là. Enfin, c'était la première manifestation de masse. Réellement.
Mais excuse-moi une question, Nicolas. Oui. Quand tu, on entend bien ce souffle que tu évoques de ces années 59, 60 et tout ça. Mais est-ce que tu écris ça pour nous foutre bien le bourdon en se disant non, mais tant mieux pour toi parce que tu y étais.
C'était mieux avant.
Non, j'ai pas dit ça. Non, je dis pas ça du tout. Non, je dis ça. Est-ce que simplement, ou est-ce que c'est pour dire tiens, on peut toujours, il y a toujours moyen, comme tu dis, non pas de faire table rase, mais de s'appuyer sur une connaissance de l'histoire pour éclairer, il paraît que les livres aussi éclairent l'époque. Alors, c'est vrai. Enfin, c'était un peu le slogan de l'année dernière. Mais est-ce que tu es animé de quelque chose de vraiment, vraiment, comment dire, peiné sur ce qui peut se passer, ou se dire, non. Est-ce que c'est aussi une façon de redonner, justement, parce que quand on dit souffle, c'est aussi le souffle qui a existé, mais c'est le souffle qui pourrait revenir.
L'idée, c'est de... En fait, c'est de parler du jazz, mais de remettre le jazz dans l'histoire elle-même. Moi, je crois beaucoup au fait, et je ne suis plus le seul, mais pendant longtemps, j'ai un peu ramé. Il y a cette idée que l'histoire culturelle fait partie intégrante de l'histoire, avec un grand H. Et cette histoire culturelle est absolument nécessaire pour comprendre comment les transformations se font jour. C'est-à-dire, en gros, les transformations, elles ont lieu en même temps dans le monde des arts et en même temps dans le monde quotidien. Et pour faire une tête à queue, mais parce que j'y pense, mai 68, c'est un peu ça. Mai 68, c'est le fait que d'un seul coup, l'art était dans la rue et que le quotidien, d'un seul coup, devenait exceptionnel.
Ça, je m'en rappelle de 68, oui. Parce que ma mère était hippie et mon père était punk et ils m'emmenaient déjà faire des trucs. Ouais.
Et justement, le mouvement culturel aujourd'hui, que ce soit dans le jazz ou dans les autres mouvements artistiques, par rapport à cette époque-là et son implication...
Par rapport à cette époque-là, ce qui se passe, c'est que à partir du milieu des années 50, pour être tout à fait net, il y a un processus qui se fait jour dans le cadre du jazz, mais au-delà, des workshops, c'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, des ateliers. Et dans ces ateliers, on retrouve pas seulement des jazzmen, on retrouve des romanciers, des littérateurs, des essayistes, des poètes. Voilà. Tout ça macère. Et on discute et on cherche, à savoir. Et tout ça se fait peut-être un peu, c'est ce que dit le cercle démocratique, Hervé me montre ça, mais ça se fait de manière un peu souterraine. C'est-à-dire, ça ne se voit pas forcément, mais il y a toute une réflexion réelle sur ce qu'il est possible de faire. Et le champ des possibles, pour parler comme ça, est assez... extraordinaire parce que on peut avoir différents avenirs. On a l'impression tout le temps que, parce qu'on a un peu une vision empirique de l'histoire, que ce qui s'est réalisé devait se réaliser.
Voilà,
ben non,
qu'il y avait qu'une seule passage.
Il y a une multitude de possibilités. Cette multitude de possibilités, il faut toujours le dire. Et l'histoire, elle est faite de rencontres qui sont quelquefois des rencontres accidentelles.
Excuse-moi, je trouve presque comme une forme de paradoxe. Je voudrais aussi poser la question à Hervé par rapport, tu parlais de le local et le mondial maintenant se font dans un grand tout. Comment c'est étonnant comme paradoxe entre ce que tu dis, le jazz qui crée un langage commun, qui à un moment donné crée un mouvement, on peut dire mondial, une forme d'osmose de pensée, etc. Et que là, on a tous les outils pour le réaliser encore plus vite, encore plus instantanément, et qu'on observerait plutôt pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y a pour l'instant, même s'il y a des tentatives de marée, est-ce que c'est un paradoxe ou quoi?
C'est à la fois un paradoxe et à la fois ça n'en est pas un. C'est un paradoxe. Au sens où nous avons les moyens d'une nouvelle sociabilité, donc d'une nouvelle capacité à unifier les gens et à les faire porter des projets, ce que nous appelons les communs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce qui s'appelle aussi des formes de résistance directe, d'usage des médias sociaux pour les mobilisations. Ça, c'est, je vais faire un peu de pub encore, c'est un des prochains livres qu'on va sortir qui s'appelle « Twitter et les gaz lacrymogènes ».
Chez CF Édition. Twitter et les gaz lacrymogènes, ça sonne bien.
C'est fait par une sociologue américaine d'origine turque et aujourd'hui américaine, qui s'appelle Zeynep Tufekci. Et Zeynep a participé au mouvement des places, les places Gezi, au mouvement de la place Tahrir, etc. Et elle a vu de l'intérieur, puisque elle, son sujet, c'est d'étudier les usages de l'Internet, quel était le type de lien qu'il y avait entre la mobilisation des gens sur place, au double sens de la place, et la mobilisation via l'Internet ou l'usage de l'Internet. Voilà. Et bientôt, je reviendrai vous le présenter, c'est ça
Mais c'est vrai que des fois, on peut être un peu étonné quand on voit l'engouement qu'il y a, comment c'est rapide de cliquer, like, machin, etc. sur un événement, et puis après, concrètement, de se retrouver à une poignée sur un mouvement, parce qu'une fois qu'on a cliqué, on n'a pas fait grand-chose, en fait.
Ça s'appelle le click activisme.
C'est ça.
Mais d'un autre côté, c'est aussi comme ça que se construit une opinion. C'est là que tout est un peu contradictoire. On a publié, je m'excuse de dire qu'on a publié que des bons bouquins, mais je les aurais pas choisis.
C'est le principe d'un éditeur sur un salon, parce que sinon, t'es qu'un.
Ouais. On a publié un livre de Fred Turner, donc qui est un chercheur à Stanford. Un historien qui a publié, il s'appelle « Aux sources de l'utopie numérique » et c'est un livre sur justement comment l'utopie de l'Internet, dès le départ, était entachée d'un vice, et ce vice, c'était la croyance dans la technologie. C'est-à-dire de penser que la technologie allait résoudre les autres problèmes de la société. Alors que la technologie, quand elle change, elle accompagne d'autres changements de la société qui sont des changements culturels, des changements dans le modèle économique, des changements dans les relations politiques, etc. etc. Et que donc, il y a une période, il y a une utopie, et cette utopie est positive et elle est nécessaire. Et puis, il y a des phases de récupération. Mais pendant ces phases de récupération, c'est la seule chose qui est vraiment importante, c'est penser qu'il y a de nouvelles utopies qui sont en train de germer. Et que, comme disait Margaret Mead, vous n'êtes pas nombreux à le penser, mais ce n'est pas grave. Ça, tout a toujours commencé par peu de gens qui l'ont pensé. Et alors, cette personne, Fred Turner, a écrit un deuxième livre qu'on a publié, donc, qui s'appelle « Le cercle démocratique », qui est encore pire de ce point de vue-là, puisque c'est la période d'avant. Il parle du multimédia entre 1940 et 1967, c'est-à-dire à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur. Félicitations. Et c'est une époque où il n'y avait pas de numérique. Et pour autant, il se permet de parler de multimédia. Pourquoi ? Parce qu'il parle des musées à l'époque. Et il parle d'une question centrale. Comment mobiliser les Américains pour qu'ils aillent faire la guerre contre les nazis sans utiliser les méthodes des nazis ? C'est-à-dire, à l'époque, on pensait que c'était la radio. Comment cette espèce d'hystérique à moustachu nabo réussit à mobiliser tout un peuple ? C'est parce qu'il avait la technique des radios pour les hypnotiser. C'était le mythe à l'époque. On en est un peu revenu.
À la radio.
Les intellectuels américains se disent comment faire autrement. Et la solution qu'ils vont trouver, donc celle qui est décrite dans le livre, c'est d'immerger les gens dans les musées, dans des grandes expositions, de les immerger avec des photos sur le mur, sur le plafond, sur le sol, etc., en leur disant vous êtes libre de choisir, mais à la fin on espère quand même que vous aurez choisi librement ce que nous avons comme envie.
Ça fait un peu peur, quand même.
Et ça fait un peu peur, d'autant que c'est le basculement. Donc, c'est des gens qui étaient profondément... Ça s'appelait The Committee for National Morale. Et c'était des gauchistes américains. Hein, donc, c'était... Et comment, en fait, à partir des années 50, la CIA a repris le modèle pour s'en servir dans les expositions internationales, c'est-à-dire comme moyen d'engranger, dans le cadre de la guerre froide, plus de gens en disant « La démocratie, c'est complètement lié... » au consumérisme. Et juste
ce qui est en général appelé les débuts de ce qu'on appelle l'art contemporain.
Oui. Et pour compléter juste sur ce que disait Nicolas sur l'année 59, en 59 a eu lieu l'exposition universelle de Moscou. Et à cette exposition-là, il y avait un ordinateur Ramac de IBM qui était là pour répondre aux questions des gens. Il y avait 4000 réponses préprogrammées. Il y avait quelqu'un qui venait qui tapait les questions des Russes. En fait, vous dites, c'est génial, c'est pour montrer la force de l'informatique. À côté de la plaque, regardez qu'est-ce que fait Facebook. Facebook, ce qu'il cherche, c'est à capter vos données. Eh bien, c'était déjà pareil en 59. L'objectif de la CIA qui avait financé tout ça, c'était de capter ce que demandent, qu'est-ce que les Russes imaginent être l'Amérique. Plus que la réponse, c'était la question qui les intéressait pour avoir une trace, comme ça.
Voilà, c'est édifiant. Alors que le vent se lève, j'espère que ce n'est pas un coup des Russes ni des Chinois, mais pour l'instant, on est à la situation sous contrôle.
C'est plutôt la Corée du Nord.
Et nous attendons peut-être un nouvel essai, souffle. Peut-être. Nous attendons toujours Michel Lambert, qui devait arriver de cette foule.
Je l'ai vu causer tout à l'heure, mais...
Il devrait arriver avant que nous...
Oui, mais il fallait qu'il descende de l'Olympe. Ça demande un certain temps. Quoi.
C'était le Lambert Jupiter. Espérons qu'il viendra avant que nous fermions cette page.
Est-ce que dans le public courageuse et courageux qui tient sous le soleil, sous ses propos de haut vol, est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à l'un de nos invités, à Nicolas ou à Hervé ? Non, pour l'instant, pas de questions. Hein, ça, on a pris cher hein, quand même. Moi aussi, hein, j'avoue, depuis trois quarts d'heure, là, demi-heure. On est, il y a un peu des choses, on les sait un petit peu, d'autres on les devine.
C'est compliqué parce que on essaye de parler en fait de quelque chose qui est le numérique, comme chose qui intervient dans la société, qui est présent dans notre société, et en même temps les gens en sont toujours à se dire mais je sais pas me servir du numérique. Donc on est dans une période de bascule.
Qui ne s'inquiète pas, au moins le numérique. Oui,
je signale quand même pour faire un peu de pub que. C'est le titre de mon dernier livre d'économie. Ça s'appelle Le basculement du monde.
Et tous les deux, ils sont complices. Donc, ils y vont, ça va faire du chiffre, ça va vendre.
Mais c'est pas chez CF Éditions.
On va continuer dans le.
C'est aux éditions du Croquant.
Voilà, j'avais une petite question, sur l'application du numérique et surtout la. la révolution numérique que nous promet, sans forcément nous la promettre, Macron veut travailler sur une société. Pour lui, le numérique, c'est pas une industrie, c'est un moyen de changer radicalement la société dans son essence même. Et il fait travailler des gens sur l'humain augmenté, l'humain de demain. Est-ce que toi, tu pourrais nous...
L'humain de demain, il s'appellera ET.
ET. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grands projets qu'on nous prépare et avec les amis qu'on a cités tout à l'heure de M. Macron?
Attention,
qui l'accueille à Versailles ou à Matignon.
Je pense qu'il y a, donc globalement, ce que tu parles, c'est surtout l'intelligence artificielle. Est-ce que l'humain augmenté, biologiquement transformé, etc.
L'homme qui valait 3 milliards, c'est pas encore maintenant. Ouais. Oui.
Mais sur l'intelligence artificielle.
C'est une petite moue. Peut-être vous êtes au courant de l'intelligence augmentée et tout
sur
ça.
Sur l'intelligence artificielle, il y a un vrai projet économique de transformer, en fait, d'utiliser des ordinateurs pour transformer des pratiques sociales, des activités qui n'ont plus besoin d'avoir des êtres humains. C'est l'entreprise de Elon Musk qui s'appelle Tesla, une entreprise qui fabrique des voitures, dans une usine complètement robotisée parce qu'elle pense qu'elle n'aura pas besoin d'être humain. Le seul problème, c'est que cette usine, elle ne marche pas. Il y a plus de pannes, il y a plus de difficultés et il n'y a pas d'humain pour superviser quand il y a des erreurs. Bilan au final, il est en train de remplacer les robots par des êtres humains. Donc on a toute une série de débats aujourd'hui sur l'intelligence artificielle va tuer tout ce qu'on a connu. Faut rester mesuré. L'intelligence artificielle peut nous offrir des nouveaux outils. Il y a des choses pour lesquelles ça marche très bien.
Mais ça fait partie des grands archétypes ou des grands mythes, comme à un moment donné, on a absolument cherché à voler, on a fini par y arriver. Un des nouveaux mythes, c'est d'avoir le robot, qui, comme dans tout bon film de science-fiction ou d'anticipation, c'est-à-dire qui va penser comme un... Enfin, il y a quand même ces histoires de logiciels qui battent le plus grand joueur de jeux de Go, d'échecs, etc. Enfin, on a l'impression qu'on avance quand même de plus en plus.
Absolument,
vers une possibilité
de supplanter
l'intelligence humaine.
Il y a des tas de choses magnifiques en intelligence artificielle qui sont capables de regarder les traductions automatiques que vous avez sur Internet. C'est génial. On ne peut pas être uniquement critique, mais il y a des choses absolument fabuleuses, notamment tout le traitement du langage, le traitement des images. Après, à quoi ça sert? Traiter des images, c'est super, c'est génial, faire de la reconnaissance. Quand c'est de la reconnaissance de visage qui sert à la police, on se dit, mais dans quel monde on rentre?
On se demande des fois si l'intelligence artificielle, elle n'est pas dans l'autre sens. C'est-à-dire si nous, en tant qu'humains, on ne devient pas de plus en plus des machines. Plutôt que les machines deviennent de plus en plus des humains. J'ai un peu l'impression que c'est plutôt ça, parce qu'on a l'impression qu'on a besoin de plus en plus de personnes qui respectent que des protocoles, qui n'ont plus besoin forcément d'une intelligence de déduction
pratique.
Mais simplement, vous mettez la vis A dans le trou B, etc. Oui, et puis voilà, et le reste.
Pas tout à fait. Je prends le numérique, si on élargit. C'est une nouvelle révolution scientifique et technique. On est quand même à l'aube de cette nouvelle révolution scientifique et technique. Pour l'instant, ça ne se voit pas encore dans les entreprises, notamment les entreprises industrielles, parce qu'il y a un problème quand même d'investissement et d'investissement massif. Quand on constate que les entreprises du CAC 40 distribuent 2/3 de leurs bénéfices à leurs actionnaires, il ne peut pas y avoir une augmentation importante, qualitative, de l'investissement. Mais ça signifie que si cette révolution se met en place, elle va transformer aussi l'organisation du travail. Et vraisemblablement, on aura là une distribution, qui sera une distribution nouvelle entre les tâches d'exécution, qui seront des tâches très mal payées, et les tâches qui sont d'organisation et de conception, qui seront très bien payées. Et je crois que ça va augmenter les inégalités qui existent aujourd'hui, beaucoup plus que de les résoudre. Et on va avoir d'autres types de créations d'emplois, c'est-à-dire on peut avoir des créations d'emplois de service à la personne, notamment qui sont des emplois dégradés en règle générale, et on a une nouvelle société qui se met en place en même temps que cette révolution scientifique et technique, qui peut être une société de précarité assez totale de l'ensemble de ce qui peut exister. Et c'est ça, en fait, l'enjeu. Et si on veut transformer la donne, il faudrait une autre politique, mais au sens propre, pas seulement l'idée que Macron, c'est de la politique libérale, fous, mais c'est l'idée de mettre en place des instruments de formation et des formations tout au long de la vie qui permettent justement non seulement de s'adapter à la machine, mais de la dominer. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on a tout un aspect politique de cette nouvelle révolution scientifique et technique dont on ne parle pas. dont on fait l'économie pour une raison simple, c'est que nous avons un gouvernement qui s'installe dans le court terme. On ne raisonne aujourd'hui que dans le court terme, on ne raisonne plus dans le moyen terme ou le long terme. Et ce que disent les économistes américains de gauche, ce qu'on appelle les libéraux aux États-Unis, tous ceux qui sont liés à Sanders et à sa campagne, disent qu'il faut planifier. Et ils s'inspirent aujourd'hui de Marx pour déterminer des politiques alternatives, y compris des politiques alternatives au capitalisme, qui n'est pas capable justement de mettre en place d'une manière assez... allant dans le sens de la satisfaction du plus grand nombre, en tous les cas, cette nouvelle révolution. Et je crois que tout ça fait partie d'un débat qui est un débat qu'on devrait avoir, qui est un débat fondamental sur justement comment est-ce qu'on peut transformer la donne d'une manière générale, comment est-ce qu'on peut sortir de cette logique capitaliste, y compris d'abord sortir de cette logique financière qui nous emmène directement vers une crise nouvelle. Voilà, ça... Et aujourd'hui, on n'a pas ces débats-là. On a des débats autour d'une privatisation, autour des chemins de fer. On n'a même pas un plan qui est un plan déterminé. C'est pour quoi faire l'ouverture à la concurrence. C'est pour aller vers quel type de chemin de fer. On veut se servir comment demain de ces moyens de transport. C'est ça, les débats.
Et justement, le débat, on pourrait peut-être l'avoir, puisqu'il y a quand même quelqu'un qui vient de loin, ou plutôt
un
qui vient
des
de
seuls
haut,
politiques qui a bien accepté
qui vient de haut,
venir
qui,
autour de cette table extrêmement
qui vient,
dangereux.
Qui descend de l'Olympe. Voilà. Monsieur Lambert, peut-être nous fait l'honneur de sa présence ici, peut-être pour
on peut vous
élever
comment
à nouveau encore le débat. Peut-être Michel.
Non, c'est
bienvenue.
Plus Michel.
Comment doit-on vous appeler, non. Votre sérénissime majesté ?
Alors oui, tout d'abord bonjour, merci de votre invitation et de m'accueillir ici. Je suis donc effectivement Michel Lambert Jupiter, votre majesté. Mais entre nous, appelez-moi Jupiter et tout ira bien.
Jupe.
Et
alors
Jupe, non,
bienvenue.
Jupi.
Alors, pouvez-vous abonder le débat sur les questionnements de Monsieur Beignet, à savoir il n'y a pas de débat, il n'y a pas assez de débat où il est détourné sur l'orientation de notre politique. Où va-t-on? Où va le monde? Peut-on influer sur l'économie? Empêcher les grands groupes, on parlait des GAFAM tout à l'heure, de maîtriser notre oui. vie privée, professionnelle, intime. On attend vos lumières.
C'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà.
Oui, alors c'est effectivement là un grand débat, un grand cercle d'investigation et de questions que vous me suggérez. Je ne doute pas de l'intérêt de ce débat pour les spectateurs et les gens, les visiteurs de ce magnifique salon des livres, ici, place Saint-Sauveur. Alors, pour répondre un peu plus concrètement à la question que vous n'avez pas tout à fait posée, je peux vous dire que, déjà, nous avons beaucoup avancé sur ces questions. Et M. Beignet, comme Mme Herbou ou M. Lecronier, doivent savoir qu'aujourd'hui ne pourra pas être comme hier. Et c'est dans ce sens que, évidemment, nous avons entrepris toutes les réformes qui permettent non seulement d'avancer en reculant pour parvenir à une société qui soit celle d'un avenir plus proche du passé, comme vous l'avez sans doute souligné et remarqué. Donc alors effectivement, ce n'est pas une politique qui ne verrait pas sur le long terme. Nous voyons très très loin dans cette perspective de robotisation, d'intelligence artificielle, que bien sûr nous développons également par l'informatique, et je sais que M. Lecronier est très sensible à cette question.
Vous dites ça parce qu'il voudrait vous faire dépanner votre Amstrad, c'est ça ? Il vous répare votre Amstrad, c'est ça ?
Voilà.
Pour le faire pousser.
Je suis surtout un admirateur de toutes les start-up et de tous les start-upeurs qui sont les citoyens de notre pays aujourd'hui.
Merci, monsieur Jupiter, monsieur Pierre Lambert. Il ferait presque peur, Hervé. Enfin, est-ce que tu le trouves proche
du... Il a bien appris le langage. Hein. Il connaît. Tu as beaucoup travaillé, je crois, depuis quelque temps, d'avoir toutes les phrases types et pouvoir
c'est un
les
logiciel.
Replacer
c'est
dans
un nouveau
l'ordre.
Logiciel.
Il assume.
C'était la
il
question
assume.
Que j'allais lui poser.
Alors, est-ce qu'on va le voir, cet effondrement économique ? Je ne sais pas quand tu me fais... J'ai fait cet œil qui se soulève. Enfin, c'était un peu le... Je ne l'ai pas lu, hein, mais le grand basculement.
Tu sais, Nicolas, comme moi, comme Marie-Claude ici, fait tellement longtemps qu'à chaque fois qu'on a essayé de prévoir un mouvement social, il n'a pas eu lieu. À chaque fois qu'on a dit qu'il n'y en aura pas, paf ! Alors,
Bah, faites comme les enfants, dites l'inverse.
Voilà, c'est ça.
Ça marchait comme mais, ça.
Alors, ce qui est sûr, c'est alors, que ça ne va pas avoir lieu.
Il parle des mouvements sociaux, mais là, en termes économiques, c'est, d'une certaine façon, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on est rentré dans un monde, depuis la crise financière d'août 2007, dans un monde qui est lié à une crise qu'on appelle systémique. C'est-à-dire qu'on a vraiment une crise de l'ensemble du système. Et cette crise de l'ensemble du système, on pourrait l'appeler crise de civilisation, parce que ce qu'il y a derrière, c'est que demain, non seulement, comme l'a dit Jupiter, ne sera pas comme hier, mais qu'en plus, il y aura forcément des révolutions. Et ces révolutions, elles sont soit internes au capitalisme, pour faire absolument, toujours.
C'était le titre d'un de vos ouvrages de campagne, il me semble bien.
On ne se trompe jamais de dire que la révolution est en marche. Ouais. Ça dépend de quelle révolution.
C'est un peu marchand de voiture ou de réfrigérateur. Ouais.
Oui, mais la Terre tourne autour d'elle-même, la révolution dure un an. Hein. Donc on sait bien. Mais c'est, je crois que c'est important de comprendre cette situation. Et ça explique ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en gros les paradoxes de l'informatisation de la société, les paradoxes du numérique. Parce que derrière cette crise, il y a évidemment un rejet qui est un rejet des élites, qui est un rejet des États qui ne font pas ce qu'il faut, qui est un rejet des constructions et notamment de la construction européenne. Tous ces rejets aujourd'hui expliquent cette espèce de repli sur soi qu'on constate un peu partout. Et c'est ça dont il est question très souvent. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a une colère qui sourd dans la société. Et cette colère, elle s'exprime souvent par l'intermédiaire, malheureusement, de l'extrême droite ou de tout ce qui est résolution en termes de rejet de l'autre, de rejet de l'immigration, pour essayer de faire semblant d'avoir une perspective politique. Et en fait, on s'enferme très souvent dans le passé. Ce que je disais tout à l'heure sur le roman, on s'enferme dans le passé au lieu de s'ouvrir vers les avenirs.
Une réaction, madame ?
Pendant que vous parlez...
On a chaud.
Oui, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des choses qui bougent. Actuellement, la place de la République...
Ah, je crois que c'était place Saint-Sauveur, parce que pour l'instant c'est calme. Enfin si, ça bouge un peu, mais...
mais la place de la République,
à Caen
Je parle bien de Caen, elle est occupée quand même.
Ah.
Alors il faudrait en parler.
Eh bien, à votre avis, pourquoi on a dressé cette table et ce salon des ivres ici, entre autres, c'est aussi pour en parler.
Elle est occupée parce qu'il y a des travaux, non, c'est ça?
Ah, ben oui.
Voilà.
Et alors, il y a les travaux, les arbres qu'il faut protéger, mais il y a surtout une partie, bon, alors on va dire, c'est pas important, c'est... Comme dit Jupiter, d'ailleurs, c'est pas ça qui va l'arrêter. Hein. Mais il y a quand même, depuis mars, il y a quand même des mouvements qui se sont mis en route.
On n'ose plus le dire, qui sont mis en mouvement.
En marche, qui se sont mis en route et qui ont... Il faut quand même noter cette chose importante, c'est que cet après-midi, et ça c'est vrai dans beaucoup de villes de France, cet après-midi, un certain nombre d'associations, d'organisations, aussi bien syndicales que politiques, ont réussi à se mettre d'accord pour au moins dire leur refus de la société, parce que on dit toujours Macron il fait des réformes les unes après les autres, mais il fait pas ses réformes les unes après les autres. Elles ont une cohérence et elles sont toutes dans le même sens, qui est absolument en même temps qui sont toutes dans le même sens de l'abolition des droits collectifs, et c'est ça qui est important. Et ce pourquoi les gens se battent, c'est pas à la fois pour, bien sûr, leurs conditions de travail à la SNCF, dans les EHPAD, dans les hôpitaux...
Dans les radios FM.
C'est aussi pour retrouver et pour garder ceux qui en ont des droits collectifs. Parce qu'il n'y a qu'avec des droits collectifs qu'on pourra échapper à la concurrence... dont parlait Hervé tout à l'heure, à l'hyper-concurrence, et surtout au chacun pour soi. Et celui qui va le mieux. L'exemple de Parcoursup est un très bon exemple. Hein.
Voilà.
Parce que c'est exactement ça, notre société, maintenant.
En tout cas, madame, avec ses propos très clairs, je pense que tout le monde les a bien compris, on forme presque une boucle avec ce que tu disais, Hervé, en parlant des communs tout à l'heure, de cette notion... je ne crois pas qu'on va avoir très peu de temps, monsieur Jou. Alors, vraiment, ouais, trois mots pour Hervé aussi. Ça, on est vraiment dans la conclusion parce qu'on a le programme qui se... Voilà, nos invités suivants qui sont déjà arrivés.
On conclut par une page de publicité, c'est ça?
Vas-y, Hervé, je t'en prie, fais-toi plaisir. Voilà, c'est un de nos grands avantages, c'est de ne pas avoir besoin de la publicité.
Donc voilà, donc non, juste, on a parlé de la partie de nos livres qui sont surtout consacrés à la critique de ce monde numérique, mais on a aussi des livres qui partent des pratiques des gens. Il y en a un qui s'appelle Grandir Connecté, qui est justement sur les jeunes. Comment ils vivent ça et comment il faut arrêter d'en parler que c'est un problème générationnel. Internet, c'est pas un problème générationnel, c'est un problème d'individus, de structures, et donc l'école a quelque chose à dire là-dessus. On a un autre livre qui s'appelle Le Livre Échange, qui est sur là je suis un mauvais éditeur, parce que pour un éditeur, une fois qu'on a vendu le livre, c'est plus la peine de s'en occuper. Le livre échange, c'est que devient le livre après, quelles sont les 7 vies ou les 9 vies comme les chats du livre, une fois qu'il a été acheté, vendu, prêté, déchiré, posé sur un banc pour être échangé ou dont on en a parlé, etc., etc. Et enfin, je voudrais annoncer un livre à paraître avant cet été de Nicolas Beignès qui s'appelle Le souffle de la révolte. Ah. Qui traite de l'histoire de 1917 à 1940, le jazz dans cette histoire-là. C'est-à-dire comment dans cette période, qui est une période de... Bon, il y a la révolution russe, il y a les Roaring Twenties aux États-Unis, il y a tout le 1936 en France. Donc c'est une époque en ébullition, et comment la musique, et le jazz en particulier, va accompagner. C'est-à-dire en fait, comment... La culture et la mobilisation politique sont deux choses qu'on peut mettre dans le même sac et qui vont ensemble, d'où l'importance du livre, d'où l'importance de la musique, d'où l'importance des radios. Je termine par une publicité. Écoutez Radio Balzernaum.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Et vous êtes présent, CF Édition est présent dans le Grand Temple.
Oui, on a un stand. Voilà, merci à Normandie Livre. Nous avons un stand ici pour présenter. Et sinon, nous sommes sur Internet. cfedition.com, c'est simple, cf, cigale et fourmi, édition.com.
Merci beaucoup Nicolas Beignès, merci beaucoup Hervé. On pourrait même finir avec une citation de Joe Hill, un syndicaliste américain qui a payé de sa vie son engagement, qui disait « Ne vous lamentez plus, organisez-vous ». Voilà, ça conclut bien l'affaire. Retour au collectif, merci aussi madame pour votre réaction. Merci mon cher Jupy Lambert. Voilà, allez donc vous taper une jupilaire, ça vous fera du bien. Et merci à vous toutes d'avoir suivi cette apostiche.
Numéro 4852.
On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite du programme. Voilà, merci à vous toutes de nous avoir suivis. A tout de suite.
Moins de tubes, pas de pub. Radio Balzernaum.
Moins de tubes, pas de pub, Radio Bazar Nahum.